La reprise des discussions sur l'avenir institutionnel hier soir, une visioconférence a réuni les délégations politiques à Nouméa et le ministre des Outre-mer à Paris. La préparation de l'audit sur les protections de marché, le Christopher Gigès réunissait ce matin tous les acteurs concernés par le dossier. En Australie, un adolescent de 16 ans sera bientôt jugé par la Cour suprême fédérale du Queensland. Il est accusé d'avoir préparé un attentat contre le leader de l'opposition, Peter Dutton. Le bras de fer de Donald Trump avec la Chine tourne à l'escalade. Les droits de douane américains sur les produits chinois sont portés à plus 145%. L'annonce de la reconnaissance par la France d'un État palestinien en juin, évoquée par Emmanuel Macron, fait beaucoup réagir dans la classe politique. Et puis en football, l'Olympique lyonnais peut encore y croire. En quart de finale aller de la Ligue Europa, Lyon a fait match nul de partout avec Manchester United. Match retour dans une semaine à Old Trafford. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi par le magazine Transparence comme tous les vendredis. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité sera cette semaine Monseigneur Michel Calvé.
Oui, c'est Monseigneur Calvé qui sera invité du magazine Transparence. Il est archevêque de Nouméa depuis 44 ans. Et demain à la cathédrale, il installera son successeur, Monseigneur Sione Poé. Alors quel regard Monseigneur Calvé porte-t-il sur ses 44 ans à la tête de l'église de Nouvelle-Calédonie? Quel souvenir et quel temps fort en retient-il? Et puis quels sont les défis de l'église en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui? On se retrouve pour cette interview de Monseigneur Calvé d'ici une demi-heure. Ce sera juste après votre journal, Jean-François.
Et l'autre rendez-vous du vendredi, c'est évidemment le Club Politique, Radio Rythme Bleu à 16h45.
Au sommaire du Club Politique, l'actualité des derniers jours avec d'abord le changement du haut-commissaire. Mais nous reviendrons aussi sur les prises de position de l'UNI et du FLNKS après la dernière visite de Manuel Valls. Et puis sur la réponse de François Bayrou à la question du sénateur Robert Rouy lors de la séance des questions au gouvernement. Nous évoquerons également le maintien en détention de Christian Théin. Voilà pour le sommaire de ce Club Politique qui débutera cet après-midi à 16h45.
La reprise donc en visioconférence des discussions sur l'avenir institutionnel. Une première séance avait lieu hier en fin d'après-midi au Haut-Commissariat en présence de tous les groupes politiques. Les délégations des loyalistes, du Rassemblement, de Calédonie Ensemble, de l'UNI, de l'UCFLNKS et de l'Éveil Océanien ont échangé avec Manuel Valls et le cabinet du ministre des Outre-mer pour poursuivre les échanges qui avaient débuté fin mars, début avril à Nouméa. Les discussions portent sur le projet d'accord politique proposé par l'État et hier soir, deux sujets ont été débattus, celui de l'autodétermination et celui de la loi fondamentale. Peu de déclarations à l'issue de ces échanges, mais Virginie Rufnac a exposé la position du groupe Rassemblement. S'il y a une volonté et un projet d'accord, il doit y avoir des mouvements de part et d'autre. Les indépendantistes, dit-elle, ne peuvent pas rester figés sur leur position.
Nous, ces dernières années, nous avons fait beaucoup d'efforts, beaucoup de pas en avant. Nous considérons aujourd'hui que le camp indépendantiste doit exprimer ce qu'il est capable de faire en termes de mouvement dans le cadre de ces discussions. Parce que si nous avons un camp totalement figé en face de nous, bien nous, de notre côté, nous n'irons pas à l'accord. C'est ça la réalité. Donc c'est un petit peu le sens de nos interventions de ce soir. Nous avons fait, nous, dans le passé, beaucoup d'efforts avec des citoyennetés restreintes, avec des systèmes institutionnels particulièrement originaux, beaucoup de compétences pour la Nouvelle-Calédonie, qu'on n'est pas d'ailleurs en capacité d'assumer aujourd'hui, tout cela pour finalement satisfaire, et l'État nous y a poussé, une exigence de la part des indépendantistes d'avoir toujours plus d'autonomie, toujours plus de responsabilité. Or, le président de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui montre que nous avons beaucoup de difficultés à assumer la très grande autonomie qui nous a été confiée. Donc nous, ces discussions, elles sont par le prisme de l'intérêt des Calédoniens, et nous ne sommes pas prêts à un accord à tout prix. Il y aura accord s'il y a des mouvements de part et d'autre, mais à ce stade, pour l'instant, ils ne sont pas forcément évidents.
Et après cette première séance, plusieurs visioconférences du même type doivent avoir lieu jusqu'au retour de Manuel Valls, qui est prévu le 29 avril pour une dizaine de jours.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Après un séjour d'un peu plus de 2 ans, marqué notamment par les violences insurrectionnelles, regrettez-vous le départ du haut-commissaire Louis Lefranc? Si vous regrettez son départ, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à la question d'hier, 50% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la proposition de Laurent Wauquiez d'enfermer les étrangers dangereux sous OQTF à Saint-Pierre et Miquelon est une bonne idée. Ils sont aussi 50% à se dire choqués par cette proposition. Un mot d'actualité judiciaire, le procès des 3 individus majeurs qui ont pris part au RICS au 1881 au début du mois de mars a été renvoyé au 17 juin prochain. N'ayant pas d'antécédents judiciaires, ils ont comparu libres ce matin. Les juges du tribunal ont suivi les réquisitions et ils ont donc placé les trois hommes âgés de 23, 25 et 28 ans sous contrôle judiciaire. Ils n'ont pas retenu l'obligation de pointage. En attendant leur procès, ils ont interdiction de porter ou de détenir une arme, de se rendre à proximité du 1881 à Nouville et d'entrer en contact avec les plaignants et les autres prévenus. Le quatrième individu mineur a été défavorablement connu de la justice, a été placé en détention provisoire en attendant son procès au tribunal pour enfants qui se tiendra le 23 avril prochain. Il est 11h36, une première pause avant de voir dans un instant ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tu étais où ?
Avec Max, à la maison.
Max ? Mais c'est qui Max ?
Ben Max, la nouvelle plateforme incluse dans les offres Canal+. Tu sais, les contenus HBO, Warner Bros, DC, Harry Potter et bien plus encore. En ce moment, la formule découverte plus option Max est à seulement 1500 francs par mois, donc j'en ai profité.
1500 francs par mois ? Ah ouais, c'est génial !
Ben allez, viens, on va se mater Game of Thrones et ensuite on attaquera la nouvelle saison de The Last of Us.
Offre valable jusqu'au 30 avril pour tout nouvel abonnement de 24 mois à la formule découverte. Bénéficiez d'un tarif remisé à 1500 francs par mois, plus option max, sans frais supplémentaires pendant 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Besoin d'une clôture ? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'autorité de la concurrence veut lutter contre la vie chère. L'an dernier, elle a publié deux notes sur le modèle économique calédonien dans le cadre de la relance après les destructions d'entreprises de mai 2024. La lutte contre la cherté de la vie est une priorité dans l'ensemble des Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie pourrait bénéficier des travaux menés dans les autres territoires. Stéphane Reterer est le président de l'autorité de la concurrence.
L'autorité de la concurrence est véritablement, à travers ce qu'on appelle l'advocacy, c'est-à-dire le rôle du président, un accompagnateur du gouvernement. Et on veut jouer ce rôle pleinement. Sur la vie chère, actuellement, on a une fenêtre qui s'est ouverte, puisqu'il vient de sortir un rapport de la délégation sénatoriale qui fait 24 propositions sur la vie chère. On a une proposition de loi au Parlement, une proposition de Manuel Valls. Il y en a certaines qui seront applicables en Nouvelle-Calédonie et qui pourront être pris en compte par le gouvernement. Puis ensuite, il faudra que ce soit voté par le Congrès.
Et ça, c'est une priorité globalement pour les Outre-mer en règle générale, avec des initiatives aussi prises en Martinique, par exemple.
Voilà. Le ministre de l'Outre-mer, Manuel Valls, et Bercy, hein, le ministre de l'Économie, ont saisi l'autorité française métropolitaine de la concurrence pour rendre un avis sur les marges des opérateurs martiniquais. Donc évidemment, ça va se servir de ces travaux pour pouvoir les reproduire en Nouvelle-Calédonie et les appliquer au grand bénéfice des consommateurs.
Stéphane Reterer, le président de l'autorité de la concurrence, était notre invité ce matin à 7h30, interrogé par Nicolas Legrand. À cette occasion, il est revenu également sur sa demande d'audit concernant les protections de marché sur le territoire. Justement, la première étape de cet audit sur l'impact des protections de marché sur l'économie calédonienne a été lancée ce matin. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie, anime une réunion d'information et d'échange sur la mission de cet audit, Nicolas.
Oui, l'objectif clair est d'établir un cahier des charges pour l'audit. Il doit permettre de dégager des pistes pour réformer le modèle calédonien. Le gouvernement a notamment fait le constat que l'absence de concurrence dans certains secteurs et certaines mesures ont pour effet d'affaiblir le pouvoir d'achat des Calédoniens. Un cabinet indépendant sera donc mandaté pour évaluer la pertinence et l'efficience des dispositifs en vigueur. Les protections de marché servent, vous le savez, à soutenir les produits fabriqués ou transformés localement face à la concurrence de l'importation. L'objectif, c'est donc de voir quelles mesures peuvent améliorer le pouvoir d'achat des Calédoniens tout en soutenant les entreprises locales et l'emploi. Écoutez Christopher Gigès, le membre du gouvernement en charge de l'économie.
C'est un audit qui est extrêmement important parce que ça permet de mettre de la transparence dans les protections de marché, dans les régulations de marché. Je crois que c'est un sujet qui fait polémique souvent et on a voulu avoir un panel assez large qui va à la fois des organisations patronales mais aussi des syndicats de salariés et des associations de consommateurs pour travailler sur le cahier des charges de cet audit pour qu'on ait un audit qui ne soit pas contesté au final et qu'on puisse avoir un soutien à l'industrie locale. Ça, il n'y a pas de souci particulier. Mais il faut que la Nouvelle-Calédonie, elle soit en capacité de s'ouvrir. Il faut que la Nouvelle-Calédonie, elle soit en capacité de ne pas pénaliser le consommateur. On a d'autres leviers aussi pour soutenir l'industrie locale que les régulations de marché. On a des soutiens à l'énergie, aux charges sociales. Et les régulations de marché, elles doivent être utilisées pour des cas bien précis. Et donc, cet audit, ça doit permettre d'évaluer parce que quand on met en place des mesures de soutien, il faut évaluer les mesures qu'on met et ensuite faire des recommandations sur quelle filière on souhaite soutenir. On a des formidables industriels en Nouvelle-Calédonie, on souhaite valoriser un certain nombre de produits locaux. Par contre, il y a des protections de marché qui sont abusives et donc il faut réformer.
L'audit est financé par l'État via une enveloppe de l'AFD. Un appel d'offres va donc être lancé très prochainement. On retrouve Christopher Gigès.
Le cahier des charges va être établi aujourd'hui. On va leur laisser quelques jours pour le finaliser. Ça sera lancé la semaine prochaine. Et ensuite, on laissera 5 mois pour que l'audit soit réalisé. Donc, on a fait vraiment le choix d'avoir un cabinet totalement indépendant qui réalise cet audit. Oui, je souhaite que ce soit un cabinet calédonien qui le réalise, qui puisse s'appuyer sur des compétences extérieures s'il le souhaite. Mais les entreprises calédoniennes ont besoin de travailler en ce moment et quand on lance des marchés, je souhaite que ça puisse profiter aux entreprises calédoniennes.
Et aujourd'hui, la DAE compte 338 marchandises concernées par une mesure de régulation de marché, environ 80% pour des mesures quantitatives comme les stops ou les quotas et 20% pour des mesures tarifaires.
Le Conseil économique, social et environnemental était lui réuni en séance plénière ce matin. Ses membres ont examiné un avant-projet de loi du pays présenté par le gouvernement sur lequel il a rendu un avis favorable à la majorité, Charlotte Coulson.
Ce sont les commissions de la santé et de la protection sociale, la CSPS, ainsi que celle de l'enseignement, de l'éducation, du travail et de la formation, la CETF, qui ont rendu leur avis, car cet avant-projet de loi du pays porte notamment sur des dispositions relatives au droit du travail et à la protection sociale en réponse à la crise de mai 2024. En premier lieu, c'est un texte sur la présomption de démission en cas d'abandon de poste dans une entreprise qui a été étudié. Jean Sassé est président de la CETF et vice-président de la CSPS.
Il fallait mettre en place des dispositions temporaires relatives au droit du travail, puisqu'il arrive que des salariés abandonnent leur poste afin de se faire licencier plutôt que de démissionner, profitant ainsi d'un meilleur régime en termes d'assurance chômage. Donc il était nécessaire de mettre fin à cette pratique.
Et cette présomption de démission en cas d'abandon de poste serait une mesure temporaire. Autre mesure importante étudiée lors de la séance du jour, le versement des indemnités journalières en cas d'arrêt maladie.
Vous savez que pour la maladie, en Nouvelle-Calédonie, à l'inverse de la métropole, la prise en charge est faite par le patronat, par les employeurs. En gros, pendant 3 mois, avec des taux de pourcentage différents, puisque c'est 100%, 90, 66. Mais là-dessus, il y a des jours de carence. Et donc, les jours de carence, jusqu'à aujourd'hui, elles sont plus ou moins indemnisées en partie pour la perte de salaire par la CAFAI. Et là, on demande à ce que ça ne le soit plus à partir de la 5e jour de carence. C'est pour éviter les abus, quoi.
Une troisième disposition a été étudiée par les membres du CESE. Elle vise à créer une procédure accélérée pour statuer rapidement sur les litiges qui a trait au droit du travail, notamment pour valider les abandons de poste ou les licenciements. À noter qu'une 20aine de recommandations ont été émises par les membres du CESE, comme la relance du contrôle médical par la CAFAT ou encore l'obligation pour les salariés de faire prolonger leur arrêt de travail par le même médecin.
Soirée de clôture du dispositif Déclic hier, mis en place l'an dernier par la province Sud en partenariat avec le Haut-Commissariat et le réseau Initiative NC. Ce dispositif permet un accompagnement entrepreneurial dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. C'est le premier parcours calédonien qui vise à faire émerger des initiatives de l'économie sociale et solidaire et à accompagner la structuration du secteur, explique Vivienne Lafay. C'est la directrice de l'association Initiative NC.
Alors les parcours, il y a plusieurs objectifs. Il y en a 3 majeurs. C'est de développer un collectif, donc de développer une structure qui souhaite se lancer dans ce genre de projet. Souvent, c'est pas une personne, mais un groupe, donc ça rend les choses encore plus complexes. Le deuxième, c'est de s'assurer que le projet est viable, vivable et durablement, c'est-à-dire qu'il arrive à trouver son équilibre économique. Et le troisième, c'est un bon exemple de ce qu'on fait ce soir, c'est faire du réseau. C'est faire en sorte que des partenaires ou des gens qui interviennent sur ces secteurs-là témoignent, se rencontrent et éventuellement projettent de faire des choses, pourquoi pas ensemble. Il y avait 10 places. Il y en a 7 qui ont continué, diverses et variées. Il y a de la communication, il y a de l'agroalimentaire, il y a de la réinsertion de jeunes, enfin des femmes qui effectivement font des maisons solidaires pour des femmes. Enfin, c'est divers.
Un propos recueilli par Kélinda Boicou. La soirée s'est déroulée en présence de Naya Wateu, élue de la province sud et du Congrès. En bref, notez qu'Air Calédonie modernise son service de fret. Il sera possible à partir du 14 avril de choisir et réserver la date de transport de la marchandise par avance, par téléphone. Les clients peuvent également voyager sur le même vol que leur fret. Ceux qui n'auraient pas réservé à l'avance pourront tout de même déposer leur colis au comptoir. Il sera prépositionné sur le prochain vol disponible. Les réservations pourront se faire à partir du 14 avril, donc au 25 03 33 pour un service qui entrera en vigueur à partir du 23 avril. L'actualité dans la région avec le prochain procès d'un adolescent de 16 ans devant la Cour suprême du Queensland en Australie. Il est accusé d'avoir préparé un acte de terrorisme contre le leader de l'opposition fédérale, Peter Dutton. Le récit de Jean-Pierre Zajac.
Les faits reprochés à cet adolescent de 16 ans se sont produits en milieu d'année dernière, alors qu'il était inscrit dans l'une des écoles privées les plus réputées de Brisbane. Après plusieurs mois d'enquête, la police fédérale et celle du Queensland ont établi que l'adolescent, qui ne peut être nommé en raison de son âge, avait décidé d'attaquer Peter Dutton et sa famille dans la propriété rurale que le couple possède au nord de Brisbane. Pour ce faire, l'étudiant avait testé plusieurs types d'explosifs, dont certains qu'il avait lui-même conçus, pour voir lequel d'entre eux serait le plus efficace. Il avait également acheté un drone dans l'intention de mener à bien son attentat, lequel a cependant été déjoué. Inculpé pour avoir fomenté un acte de terrorisme, le jeune homme, qui était en détention depuis son arrestation, a été avisé hier qu'il va devoir comparaître devant la Cour suprême du Queensland pour y répondre des faits qui lui sont reprochés. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont justement reprochés, cet adolescent pourrait passer le reste de sa vie en prison. Il est 11h et bientôt 47 minutes. Dans un instant, l'actualité à l'étranger et en métropole.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Prêt pour un lavage parfait? Pour un linge impeccable, même à l'eau froide, Gamma prend soin de vos blancs et couleurs, tout en leur offrant une fraîcheur intense qui dure longtemps. Gamma, le choix malin pour votre lessive. Découvrez nos nouveaux parfums de lessive Gamma dans votre magasin le plus proche. Gamma, le choix malin.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
L'info en trois lettres. RRB.
L'actualité en métropole et dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudet.
Les bourses mondiales ont retrouvé des couleurs après l'annonce de Donald Trump de repousser de 90 jours l'entrée en vigueur de la hausse des taxes de douane sur tous les produits entrant aux États-Unis. Seule Wall Street s'est retrouvée en difficulté en raison du bras de fer entre Washington et Pékin. La Chine est en effet le seul pays qui n'est pas concerné par cette pause décidée par Donald Trump et face à l'attitude des dirigeants chinois qui préfèrent la riposte à la négociation, le président américain a porté les droits de douane sur les produits chinois à plus 145%. On est clairement dans une escalade, estime Thomas Gibine. Il est expert en macroéconomie internationale.
Chacun cherche la capitulation de l'autre, c'est-à-dire que chacune des deux puissances annonce qu'il veut négocier, mais en même temps soit fait une surenchère d'annonces, soit des propos, en particulier Donald Trump, insultants. On est aussi dans une dimension qui est très politique. On est face à des superpuissances qui ne peuvent pas montrer qu'elles vont céder à l'autre.
Ces tensions diplomatico-économiques entre Washington et Pékin ont une incidence donc sur le marché américain. Le Dow Jones a clôturé en recul de 2,5% et le Nasdaq en recul de 4,3%. C'est une annonce d'Emmanuel Macron qui n'est pas passée inaperçue. De retour d'un déplacement en Égypte, le président de la République a annoncé que la France pourrait reconnaître un État palestinien sous certaines conditions. Et il a même évoqué une décision dans ce sens pour le mois de juin. Annonce largement commentée dans la classe politique avec des positions évidemment différentes. Alexis de La Fontaine pour Europe 1.
C'est une victoire pour la France insoumise qui demande la reconnaissance de l'État palestinien depuis des années. Notre position s'impose comme la seule issue concrète à ce conflit, assure Jean-Luc Mélenchon. Alors évidemment, cette évolution du président de la République dérange au sein du bloc central, mais selon le député macroniste Mathieu Lefèvre, il ne faut pas s'emballer, car il reste encore beaucoup de conditions à remplir.
Il a aussi dit que cette reconnaissance était conditionnée à une reconnaissance réciproque de l'État d'Israël par ses voisins. Je pense qu'il est important de le rappeler. Ça veut dire que si la France reconnaît l'État palestinien, c'est aussi qu'il y aura des garanties de sécurité pour l'État d'Israël, et ça me semble extrêmement important.
Plusieurs députés macronistes restent donc opposés à la reconnaissance de l'État palestinien dans l'État. Idem au Rassemblement national. Selon Sébastien Chenu, ce serait envoyer un mauvais signal, car la France effacerait alors les actes de terrorisme commis par le Hamas.
L'annonce d'Emmanuel Macron a surpris tout le monde, y compris sur le timing annoncé. Pourquoi maintenant ? Écoutez le commentaire de Frédéric Ancel, il est spécialiste de géopolitique.
C'est la grande question. Et je veux dire, c'est une question assez angoissante parce que, au fond, le président, depuis son premier mandat, a toujours affirmé qu'il n'y avait pas de tabou à la reconnaissance à terme d'un État palestinien. Sur quoi il a raison, d'ailleurs. Mais à chaque fois, il disait qu'il fallait attendre le bon moment. Le timing, là, annoncé en avril pour éventuellement juin 2025, pose réellement question. Pourquoi ? D'abord parce que il n'y a pas de sommet international prévu. Il n'y a pas de date historique particulière. On n'assiste pas sur le terrain, c'est le moins qu'on puisse dire, à un renouveau du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Le Hamas n'est pas totalement défait. L'autorité palestinienne n'est pas revenue d'où elle a été chassée en 2007, c'est-à-dire dans la bande de Gaza. Et le gouvernement israélien nationaliste est toujours en place. Bref, je ne sais pas aujourd'hui dans quelle mesure la France, reconnaissant l'État de Palestine en juin, pourrait obtenir une crédibilité ou quelque chose de particulier en termes de conséquences sur le terrain.
Frédéric Ancel, au micro de nos confrères d'Europe 1. En métropole, Bruno Retailleau dresse le bilan des 6 mois qu'il vient de passer place Beauvau, un ministre de l'Intérieur qui a connu 2 premiers ministres et qui a dressé un bilan en plusieurs points. Jean-Baptiste Marty.
L'immigration illégale d'abord, avec des premières mesures qui portent déjà leurs fruits, selon Bruno Retailleau.
Depuis l'édiction du 23 janvier de la circulaire que j'ai signée au préfet, nous avons 20% de moins de régularisation.
Plus de fermeté donc, les interpellations des étrangers en situation irrégulière ont augmenté de 6% et 1307 titres de séjour retirés ces 6 derniers mois. Autre bilan évoqué, la lutte contre le trafic de drogue, les saisies de cocaïne ont augmenté de 202% début 2025 par rapport à la même période l'année précédente, encourageant donc selon Bruno Retailleau, même s'il reconnaît ne pas pouvoir appliquer pleinement sa politique.
Nous avons accepté d'entrer dans ce gouvernement en connaissant les limites de notre action, puisque nous n'avons pas de majorité parlementaire. On ne changera pas les choses parce que je pense qu'on est au bout d'un système, que la politique de la rustine, ça ne va plus sans assumer une vraie rupture.
Enfin, c'est une baisse globale des délits concernant la délinquance du quotidien, notamment les vols avec violence, moins 19%. Un bilan qui s'inscrit toutefois dans la dynamique que son prédécesseur Gérald Darmanin avait enclenché.
Et notez que Bruno Retailleau s'est abstenu de commenter longuement la proposition de Laurent Wauquiez, son adversaire dans la course à la présidence des Républicains, qui consiste à envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon les OQTF les plus dangereux. C'est une proposition déroutante, a-t-il simplement déclaré. Et puis en bref, l'enseignante accusée de harcèlement sur une élève de 11 ans a été relaxée. La fillette s'était suicidée en 2019. Pour le tribunal, rien ne permet de prouver que l'enseignante voulait isoler et stigmatiser son élève. Selon les juges, les preuves avancées sont discordantes, indirectes et peu circonstanciées. Les parents de l'adolescente ont annoncé leur intention de faire appel. 11h53, dans un instant, c'est la page sport de ce journal. Journal avant de retrouver le magazine Transparence.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Simplifiez-vous la vie avec le paiement en ligne. Pas besoin de créer de compte, rapide et pratique. Allez sur www.cde.nc, cliquez sur espace client et choisissez le paiement express pour régler votre facture d'eau. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance!
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Tout le sport en trois lettres, RRB. L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer par l'actualité du football. On jouait en effet ce matin les quarts de finale aller de la Ligue Europa. Lyon est allé arracher le match nul contre Manchester United dans les dernières minutes du temps de jeu, Léana Colombo.
Et oui, il faudra faire mieux à Old Trafford vendredi prochain. Plus entreprenants que leurs adversaires, les Lyonnais quittent finalement la pelouse du Groupama Stadium avec un match nul, 2-2 face à Manchester United, avec l'obligation de s'imposer lors du quart de finale retour. Sauveur de l'OL dans le temps additionnel, l'attaquant de l'Olympique lyonnais, Ryan Cherki, estime que les Red Devils craignaient les Gones et sont venus à Lyon pour défendre. Écoutez.
On a su faire le dos rond quand il fallait faire le dos rond, on est revenu au score dans cette fin de match. Même si c'est vrai qu'on a été bien meilleur que cette équipe, on a montré toute l'étendue de notre talent. On sait que c'était une bonne équipe, on sait qu'ils ont beaucoup de qualité, mais on n'a jamais eu peur d'eux, on n'aura jamais peur d'eux. Et la seule chose qu'il faut retenir dans ce match, c'est qu'il y a 0-0. Et on ira là-bas pour attaquer et pas défendre comme ils sont venus faire ici.
On notera un premier but côté lyonnais signé Thiago Almada à la 25e minute. Le français Corentin Tolisso a quant à lui été joueur du match. Dans les autres rencontres, Tottenham a également fait un nul, 1-1 contre l'Eintracht Francfort. Les Glasgow Rangers et l'Athletic Bilbao se sont quittés sur un score nul 0-0. Un peu plus tôt dans la nuit, la Lazio de Roma a perdu 2-0 face aux Norvégiens du Bodø/Glimt.
Le football toujours et le bras de fer entre le PSG et Kylian Mbappé n'est pas terminé. Il se poursuit sur le terrain judiciaire. Le clan de l'ancien attaquant parisien a fait saisir par le tribunal judiciaire de Paris les comptes bancaires du club à titre conservatoire. Les explications de Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Kylian Mbappé met le turbo pour essayer de se faire payer les 55 millions d'euros d'arriérés de salaire. Voilà pourquoi cet après-midi, les avocats de Kylian Mbappé ont donné une conférence de presse. Au premier rang, ses parents, très attentifs, maître Thomas Clay a annoncé une première décision forte.
Nous avons ce matin saisi les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d'euros par une saisie conservatoire.
Ce n'est pas tout, les conseils de Kylian Mbappé vont prochainement saisir le conseil des prud'hommes. L'attaquant avait un contrat de travail et entend le faire respecter, explique maître Delphine Vereden.
Il n'a pas d'autre choix que de passer à l'attaque aujourd'hui parce qu'on est face à un club qui refuse non seulement de respecter le contrat qu'il a signé, mais aussi les décisions de justice qui ont été prononcées contre lui et également les règlements du football.
Kylian Mbappé va aussi se joindre à une plainte globale du syndicat des joueurs contre les clubs de football pour harcèlement moral. Le Paris Saint-Germain, joint par Europe 1, réaffirme son souhait d'une résolution amiable du conflit et ira au prud'homme sans problème. En tout cas, le bras de fer entre Kylian Mbappé et le club de la capitale est loin d'être terminé. L'examen du litige sur le fond n'interviendra que dans plusieurs semaines.
En bref, du tennis et Arthur Fils toujours sur un nuage à Monte-Carlo. Le Français s'est montré impitoyable face au numéro 9 du classement ATP, Andrei Rublev, en remportant le 8e de finale du tournoi en 2-7, 6-2, 6-3. Après Indian Wells et Miami, le nouveau numéro 1 français enchaîne donc un troisième quart de finale d'affilée dans un Masters 1000. Il définira ce soir à 21h30 le numéro 3 mondial et quadruple vainqueur en Grand Chelem, Carlos Alcaraz, qui a lui sorti l'Allemand Daniel Altmaier. Et puis c'est le rendez-vous golf de l'année. Le Gotha du golf mondial joue le Masters d'Augusta, le plus prestigieux des tournois du Grand Chelem. C'est le vétéran britannique Justin Rose qui est en tête à l'issue de la première journée. Avec un score de moins 7, il devance de 3 coups un groupe de 3 joueurs, Scotty Scheffler, le numéro 1 mondial, Ludwig Auberg et Corey Connors. Le seul Français présent sur ce tournoi, Mathieu Pavon, est 87e. Après avoir rendu une carte de 6 au-dessus du par, il devra batailler demain pour tenter de passer le cut et poursuivre son aventure sur le parcours d'Augusta ce week-end. Et puis on termine avec l'actu sport sur le territoire. Léana et les joueurs calédoniens de volleyball sont en grande forme.
Voilà une semaine que nos Calédoniens enchaînent les matchs face à Wallis et Futuna dans un tournoi amical organisé dans toutes les salles omnisports du Grand Nouméa. Les victoires s'enchaînent chez les hommes comme chez les femmes. Hier encore à la salle Omnisport Ernest Waeo, l'équipe masculine s'est imposée 3-7-1 et les joueuses calédoniennes 3-7-2 au terme d'un match très serré. Pour Moïse Kalimou, le président de la Ligue calédonienne de volley, ces matchs sont une bonne manière de jauger les forces adverses.
Historiquement, par rapport au volleyball, on a toujours été dans toutes les compétitions internationales, que ce soit sur les mini-jeux et les jeux, on arrive toujours à se rencontrer en demi-finale ou en finale. Donc ouais, il y a une histoire historique par rapport aux rencontres sportives. Et il était très important de préparer les rencontres et jouer avec eux et de bien connaître leur façon de jouer pour mieux préparer 2027. C'est le dernier match, c'est la fin de la tournée. Donc on invite tout le monde, tout le mouvement sportif, tous les personnes qui est passionnées du volleyball, même aussi le grand public, pour venir regarder des beaux spectacles, des beaux matchs.
Et vous venez de l'entendre, rendez-vous donc ce soir dès 18h à l'Arène du Sud de Païta pour assister à ces matchs de clôture.